Chapitre 7, deux guerres et puis plus jamais ça.
On l'a dit et redit un peu partout, là aussi on vous renvoie vos cours d'histoire, la montée des nationalismes à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle a mené aux deux guerres qui, avant de devenir mondiales, sont bien nées sur notre vieux continent. Vous en avez eu un aperçu très concret en vous rendant au fort de Longsaint. La technologie de guerre avance vite, et la petite Belgique aura été rapidement dépassée par les avancées des troupes et de la technologie allemande. Les moyens industriels, l'acier, le charbon, sont à la fois une cause, un moyen et un enjeu de ces conflits mondiaux. Sans l'acier pour fabriquer les canons, les blindés, les grosses Bertha et les V2, on aurait clairement comptabilisé beaucoup moins de morts et on se serait peut-être aussi tout simplement beaucoup moins mis sur la gueule.
Impossible de réécrire l'histoire et de savoir si, sans cette puissance industrielle, les guerres auraient quand même été déclenchées. Mais assurément, sur la manière dont se sont déroulés ces conflits, rien n'aurait été pareil sans la puissance de feu des belligérants. On comprend donc assez facilement que, pour mettre en place une paix durable, des responsables politiques du milieu du XXe siècle soient passés par une communauté de l'acier et du charbon. C'est la future CECA. Mais ne brûlons pas les étapes. Nous disions donc que les guerres étaient nées de la montée des nationalismes. Autrement dit, on ne s'est jamais senti aussi différent des voisins de la nation d'à côté, qu'ils soient allemands, britanniques, polonais ou français, qu'à la veille des deux guerres mondiales. Certains partis ont alimenté ce nationalisme, ce rejet de l'étranger, et ils sont pour le coup clairement coupables des millions de morts des deux guerres. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui encore, même en veillant à garder une certaine objectivité dans la présentation des différentes idéologies politiques, vos professeurs, comme un paquet d'associations, ont le droit, et même le devoir, de ne pas considérer les partis nationalistes sur un pied d'égalité avec les autres. Un parti qui, explicitement ou implicitement, opère une hiérarchie entre les ressortissants nationaux et les étrangers, est un parti qui n'a pas sa place dans l'éventail démocratique. Ça peut paraître bête de le rappeler, mais à l'heure où on observe le retour des tenants de cette idéologie au pouvoir aux Pays-Bas, en Italie, en Suède, en Pologne, en Hongrie, qu'ils s'en rapprochent méchamment en Flandre, en France, en Espagne, c'est quand même pas mal de le redire quand même.
On pourrait vous démontrer pendant des heures en quoi ces partis sont dangereux, mais attardons-nous sur un cas particulier, celui que vous avez découvert avec un spectacle comme Derrière le front, le web documentaire de Gré ou de Force et l'ouvrage Zinc, celui que vous explorez aussi au mémorial Alsace-Moselle, celui que vous avez ressenti à la Calamine, à Strasbourg, à Heidelberg, le cas des frontaliers. Le nationalisme, à la limite, quand on est au cœur des grands ensembles nationaux, on pourrait en avoir que les côtés reluisants. Mais sitôt qu'on habite aux limites des territoires nationaux, on voit bien que ce nationalisme, il ne s'encombre pas des réalités complexes. Habiter à proximité d'une frontière à l'heure des nationalismes, c'est en permanence être ballotté entre deux camps, deux cultures, et souvent être victime de racisme, de méfiance ou de haine, d'un côté et puis de l'autre, ou des deux à la fois. On vous invitera à faire le parallèle entre les habitants de Moresnet, ceux de Strasbourg, pendant les deux guerres mondiales. Vous verrez que leur sort aura été encore moins enviable que celui de tous les autres Belges ou Français face à l'envahisseur allemand. La manière la plus flagrante dont ça se marque, c'est peut-être au niveau de la langue. Du jour au lendemain, des gens qui parlaient français, qui parlaient wallon, qui parlaient alsacien, se retrouvent obligés de parler allemand. Ou à l'inverse, des populations germanophones sont regardées de travers par les grands ensembles linguistiques que sont la France ou la Wallonie.
L'autre situation qui est particulièrement problématique quand on fait face à des nationalismes, c'est d'être membre d'une communauté qui est marginalisée au sein de la nation. Certains peuples, parce qu'ils migrent par exemple, ne se définissent pas comme étant liés à la terre des ancêtres, fantasmée par les nationalismes. On pense bien sûr aux Juifs, mais c'est aussi le cas des Roms, et parmi eux, vous le découvrirez également durant le voyage, des Sinti, une population rom que les nazis ont également essayé d'exterminer dans leur fantasme d'une nation pure. Et c'est là tout le paradoxe. Ce qui fait notre histoire commune à nous autres Européens, c'est d'être séparés par des milliers de kilomètres de frontières qui ont longtemps construit les gens les uns contre les autres. Si vous regardez une carte politique du monde, vous serez forcément frappé par le fait que, plus que partout dans le monde, notre petite protubérance sur le continent eurasiatique est découpée par un nombre incalculable de frontières, et que les pays y sont de taille beaucoup plus modeste que partout ailleurs. Or, qui dit beaucoup de frontières, dit beaucoup de guerres de territoire. Alors, ce sont ces frontières qu'on va tenter de faire disparaître au fil de la deuxième moitié du XXe siècle pour atteindre la paix.
En 1950, Robert Schuman, ministre français des Affaires étrangères, annonce la création de la CECA, C-E-C-A, pour Communauté européenne du charbon et de l'acier. L'idée est de rendre la guerre non seulement impensable, mais aussi matériellement impossible entre les pays fondateurs de cet embryon d'Union européenne. Ces pays sont la Belgique, les Pays-Bas, le Luxembourg, déjà unifié en tant que Benelux auparavant, la France, la République fédérale d'Allemagne et l'Italie. Avec un marché unique de l'acier et du charbon, se faire la guerre serait rendu impossible par les interdépendances des uns des autres. Les bases de l'Union européenne sont donc économiques. Politiques aussi. Bien sûr, on peut voir un bel idéal derrière cette idée de faire disparaître la guerre sur le continent, mais c'est avant tout une réunion assez pragmatique et libérale d'États qui décide de tourner le dos au nationalisme et de le faire au moyen d'un marché libre. À la CECA succéderont toutes les étapes de la fondation de l'Union européenne telle que nous la connaissons aujourd'hui. Des élargissements successifs à un nombre toujours croissant de pays, jusqu'au Brexit en tout cas, la fondation de l'espace Schengen en 1995, qui fait qu'aujourd'hui, entre 27 États, y compris des États qui ne font pas partie de l'Union européenne, il n'est plus nécessaire de sortir son passeport pour passer la frontière, du moment qu'on soit soi-même ressortissant d'un de ces pays membres. La création de la zone euro en 1999, qui remplace les monnaies nationales par des 20 membres actuels par une monnaie unique. Cette histoire-là, elle vous sera rappelée au mémorial Alsace-Moselle. C'est un endroit qui est utile pour faire le lien entre l'histoire d'une région tout entière, la manière dont elle fait face à la Seconde Guerre mondiale, et puis la résonance qu'elle trouve dans la construction de l'Europe, telle qu'elle s'élabore ces 70 dernières années.
Alors, aujourd'hui, on ne peut pas nier qu'entre ces pays européens que nous allons traverser, la France, la Belgique, l'Allemagne, les possibilités de guerre ont reculé. Et vous l'avez peut-être senti si vous nous avez écouté avec attention jusqu'ici, 78 ans de paix, ce n'est pas rien. Alors on nous le rappelle beaucoup quand on évoque la guerre en Ukraine, mais c'est parce que ce n'est pas anodin. Depuis plus de 70 ans, dans nos régions, des gens sont nés, ont grandi, sans jamais connaître la guerre sur le seuil de leur porte. C'est historiquement assez inédit. Alors cela aura-t-il suffi à créer une identité européenne ? À vous de nous le dire.